Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un dimanche spécial, c'est la Pentecôte. Et dans la Bible, c'est la naissance de l'Église. Et pour cela, bien sûr, nous allons ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre des Actes. Le livre des Actes des apôtres est un pont jeté entre la vie de Jésus, racontée dans les évangiles, et le salut en Jésus enseigné dans les épîtres. C'est aussi une période de transition entre le judaïsme et le christianisme, entre la loi d'un côté et la grâce. Alors le livre des Actes rapporte la venue du Saint-Esprit, sa présence, son œuvre dans la vie des apôtres, des disciples, des juifs et des nations. Ce livre s'élargit d'un petit groupe de chrétiens juifs habitant à Jérusalem à l'ensemble du monde connu à cette époque, dont la Pentecôte est bien plus que la célébration d'un événement marquant de l'histoire chrétienne. À la Pentecôte, c'est une ère nouvelle qui commence, celle de l'Église. Elle commence avec une poignée de personnes. Rendez-vous compte, une poignée de personnes retranchées dans une chambre haute, comme ils appellent à l'époque, à Jérusalem. Elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui, malgré les persécutions, les renversements d'empires et de royaumes, les apparitions de nouvelles religions et philosophies. Et elle se poursuivra jusqu'au retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, lisons deux longs passages dans le livre des Actes. D'abord le premier, Actes chapitre 1, versets 4 à 15. Donc là, nous sommes 10 jours avant la Pentecôte. Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « C'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à Chambourcy par exemple. » Après avoir dit cela, il fit le vœu pendant qu'ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec des femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et le discours se poursuit. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est Actes au chapitre 2, versets 1 à 12. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ? Que veut dire ceci ?» On va s'arrêter là. Alors, la Pentecôte est l'une des trois fêtes principales du calendrier juif. Il faut savoir cela, trois fêtes principales. Tous les Hébreux de l'époque la célèbrent à Jérusalem. Ils viennent de toutes les contrées où ils ont été dispersés, depuis Rome jusqu'au pays des Parthes, qui se situe à plus de 2000-2500 kilomètres. La première grande fête juive, c'est la Pâque, qui commémore l'Exode, la libération de l'esclavage en Égypte du peuple d'Israël. Le sacrifice d'un agneau au moment de l'Exode a eu son accomplissement à la croix. Christ, notre Pâque, a été immolé. La mort de Christ est le sacrifice de l'agneau pascal suprême. Lors de la deuxième grande fête juive, celle des pains sans levain, célébrée le lendemain de la Pâque, on offre les prémices de la moisson. C'est une image de la résurrection du Seigneur Jésus en tant que prémices de la résurrection des croyants. Il est dit à 1 Corinthiens, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La Pentecôte, ou fête des semaines, est la troisième grande fête juive. Elle a lieu 50 jours après le premier dimanche qui suivait la Pâque. Ce jour-là, l'offrande des deux pains qui étaient agités devant l'Éternel préfigurait la première moisson des âmes sauvées, les premiers croyants de l'époque de l'Église, juifs et païens unis ensemble. Dieu a utilisé cette fête pour réaliser sa promesse d'envoyer le Saint-Esprit. L'Esprit est venu le jour de la Pentecôte comme prémisse de l'héritage éternel des croyants, la joie et la paix dans la glorieuse présence de Dieu. Pierre nous dit que c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. Les disciples qui sont tous ensemble dans la chambre haute sont les prémices de toute la moisson des croyants à venir. Ainsi, la mort du Seigneur, sa résurrection et la venue du Saint-Esprit pour former l'Église sont les faits fondamentaux et uniques de l'histoire chrétienne. L'édification de l'Église que Christ a promis de bâtir commence là, à Jérusalem, et ne s'achèvera qu'au retour de Christ. Alors, Nous relèverons dans notre message que la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit, l'accomplissement des promesses de Dieu, la naissance de l'Église et enfin la plénitude de l'Esprit. Alors, d'abord, la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit. Juste avant Pentecôte, il n'y a plus de doute chez les disciples. Maintenant qu'ils croient en la vérité concernant Jésus et son œuvre, ils sont en mesure de recevoir l'Esprit, la puissance promise par Christ qu'ils viennent de voir élevée au ciel auprès du Père. Obéissant à l'ordre du Seigneur, les disciples sont tous ensemble dans un même lieu. Tout est prêt pour la venue de l'autre consolateur promis. Et cette venue est accompagnée de deux manifestations surnaturelles que les disciples peuvent entendre et voir. D'abord, le texte nous dit un bruit comme celui d'un vent impétueux, une manifestation audible de la puissance du Saint-Esprit. Le vent ou le souffle sont un des symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Le vent souffle où il veut. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit, a dit Jésus à Nicodème. Tout à coup, même si les croyants savaient que la venue de l'Esprit était imminente, ils sont néanmoins surpris. Quand le bruit du vent impétueux s'est fait entendre, la multitude a accouru près de la chambre haute. Et à son arrivée, elle est étonnée et confondue parce que chacun entend parler dans sa propre langue. Le Saint-Esprit a rendu les disciples capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Cette puissance leur est nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée, rendre témoignage au Christ ressuscité jusqu'au bout de la terre. L'Évangile sera donc annoncé à tous les hommes, sans distinction de langue. Puis, ce sont des langues séparées les unes des autres, comme de feu. Une autre manifestation, cette fois visible, de la puissance du Saint-Esprit qui remplit la maison et se pose sur chacun d'eux. Le feu, c'est une autre image du Saint-Esprit dans la Bible. C'est aussi une image de la sainteté de Dieu. La parole de Dieu est comparée à un feu qui brûle tout ce qui est devant lui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel en Jérémie, chapitre 23. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, a dit Moïse au peuple d'Israël, non pas pour consumer ses enfants, mais pour purifier en eux ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Cet esprit est d'ailleurs descendu sur le Seigneur Jésus sous la forme d'une colombe, image de l'homme parfait qu'il était, plein de pureté et de douceur. Ces deux manifestations du Saint-Esprit, le vent et le feu, nous montre deux des ministères du Saint-Esprit envers les croyants. La puissance d'abord pour le témoignage de l'Évangile et la sanctification. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit vient habiter dans chaque croyant de manière permanente. L'apôtre Jean nous rappelle qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Quand Jésus dit à la foule, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean explique, Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'habitation du Saint-Esprit dans les croyants de l'Ancien Testament et jusqu'à la Pentecôte était peu fréquente, temporaire, sélective. Elle ne concernait que quelques dirigeants d'Israël, comme dans la Bible on nous dit Josué, Ézéchiel. Mais depuis la Pentecôte, Le Saint-Esprit vient habiter de façon permanente à la fois dans chaque croyant au moment du salut et dans tout le corps de Christ, l'Église. C'est l'Esprit d'adoption qui habite intérieurement chaque croyant. Chaque croyant est scellé du Saint-Esprit. L'Esprit lui donne la ferme et merveilleuse assurance qu'il est enfant de Dieu pour l'éternité. C'est ce qu'affirme Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Cette bénédiction individuelle est spécifique de l'époque de l'Église depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. Elle est pour tous les croyants à cause de l'œuvre parfaite accomplie par Jésus à la croix. Les croyants sont tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est également par le Saint-Esprit que Dieu habite dans sa maison sur la terre, l'Église. C'est ce que Paul dit aux croyants d'Éphèse, à Éphèse. « En Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Éphésiens chapitre 2. Lorsque, dans Actes, dans la maison du centenier romain, les païens se sont mis à parler dans des langues étrangères, comme les disciples à Pentecôte, Pierre a compris qu'ils étaient eux aussi baptisés du Saint-Esprit. Et il dit, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Le parler en langue étrangère était le signe pour les apôtres que l'Esprit ajoutait à l'Église tous ceux qui croyaient, juifs comme païens. Paul dira plus tard, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit et elle célèbre aussi l'accomplissement des promesses de Dieu. La Pentecôte est un événement unique, une prophétie accomplie qui inaugure l'ère de l'Église et la nouvelle alliance dans laquelle tous les croyants sont habités par le Saint-Esprit et baptisés en lui au moment du salut en Christ. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste avait annoncé ce jour à ses disciples quand il s'adressait à un groupe composé à la fois de croyants et de non-croyants. Il affirmait que Christ les baptiserait à la fois du Saint-Esprit et de feu. Il disait à Matthieu chapitre 3, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Si le feu dans la Bible est une image du Saint-Esprit et de la sainteté de Dieu, il est aussi l'image du jugement divin sur ceux qui refusent de se repentir. Mais quand Jean-Baptiste s'adressait uniquement à des croyants, il déclarait que Christ les baptiserait du Saint-Esprit. Jésus a repris la prophétie de Jean-Baptiste. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il leur dit, et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les disciples avaient toujours cette même préoccupation. Seigneur, Quand viendras-tu établir ton royaume ? Le Seigneur parlait à ses disciples du royaume de Dieu. Eux, ils parlaient d'un royaume terrestre. Nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël, disaient les deux disciples allant à Emmaüs. Et Jésus commence par ce qu'il a toujours répondu. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Aucune spéculation n'est possible quant à la date de cet événement. Les dates sont réservées à l'autorité du Père et ne concernent pas l'Église qui a une espérance céleste. Le Seigneur donne à ses disciples un programme prioritaire pour le temps actuel. Ils sont à être appelés. Ils sont appelés à être les témoins du Seigneur Jésus. Il les assure que le Saint-Esprit venant sur eux les en rendra capables. Et il leur dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et c'est aussi l'encouragement que Paul donne à son disciple, Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous a remplis de force, d'amour et de sagesse. Enfin, Jésus prophétise que le témoignage des disciples présents et futurs ira par tout le monde, donnant en quelque sorte le plan du livre des Actes à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Pentecôte célèbre donc la venue de l'Esprit. La Pentecôte célèbre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et elle célèbre aussi la naissance de l'Église. Jésus avait essayé plusieurs fois de préparer ses disciples à sa mort et à sa résurrection. Mais ils avaient toujours repoussé cette pensée avec force, si bien qu'ils ont été complètement désemparés lorsqu'il a été crucifié. Et Jésus, après sa résurrection, est resté 40 jours sur la terre. 40 jours, il a donné des preuves éclatantes de sa résurrection en apparaissant au total environ 500 personnes. 40 jours, il a pris le temps nécessaire avec ses disciples pour les préparer à la venue du Saint-Esprit, à leur ministère de témoins de l'Évangile et de faiseurs de disciples, à son ascension sur les nuées vers le Père et à son retour prochain pour établir son royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les disciples qui n'avaient pas pu prier une heure avec le Seigneur avant sa mort, prient maintenant ensemble avec ferveur. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, et ils persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La prière devient donc une partie essentielle de leur vie et de leur ministère. Quelques semaines auparavant, Jésus avait présenté dans sa prière, en Jean 17, le désir que les disciples soient un comme le Père et lui étaient un. Lorsque Pierre se lève pour s'adresser à la foule qui s'est réunie, il ne fait appel ni à son expérience de rencontre avec le ressuscité, ni au témoignage des autres apôtres et des disciples, mais il fait référence au texte biblique seul. Il suit la démarche de Jésus avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus leur dit sur le chemin d'Emmaüs, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pierre cite les textes que Jésus leur avait donnés et par là accorde plus d'importance au témoignage des Écritures qu'à leur expérience. Jésus n'a pas montré ses mains aux disciples sur le chemin qui mène à Emmaüs, mais quand ils les ont vus, ils ont cru. Voilà un rappel pour notre époque où l'accent dans certaines églises est souvent mis sur l'expérience plus que sur la parole inspirée. La conclusion de l'intervention de Pierre est celle-ci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur. Signifie que Jésus qui avait été crucifié est le Seigneur assis à la droite du Père. Il est vivant. La force de conviction du Saint-Esprit fut si puissante que l'auditoire réagit immédiatement sans que Pierre fasse un appel ou lance une invitation à se convertir. Ils s'écrièrent, « Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous ?» Cette question naissait d'un sentiment profond de culpabilité. Ils réalisaient maintenant que ce Jésus qu'ils avaient crucifié est le Fils bien-aimé de Dieu, qu'il est ressuscité des morts et glorifié au ciel. Comment ces meurtriers coupables pouvaient-ils échapper au jugement? Et la réponse de Pierre fut la suivante. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par la repentance, ils reconnaissaient leurs péchés devant Dieu. Par la foi au Seigneur Jésus comme leur sauveur, ils étaient régénérés et recevaient le pardon éternel des péchés. Par le baptême d'eau, ils se séparaient publiquement de la nation qui avait crucifié le Seigneur et ils s'identifiaient à lui. Ainsi, le baptême devint le signe extérieur de leur foi en Christ. Et par cet acte, ils passaient du judaïsme au christianisme. Et il est dit dans la parole, en Actes chapitre 2, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous vous rendez compte, 3000 âmes. C'est la première réunion d'évangélisation et c'est l'acte de naissance de l'Église. Un homme du peuple, sans instruction, mais rempli du Saint-Esprit, il jette le filet de l'Évangile et ce jour-là, 3000 personnes sont sauvées. C'est un accomplissement de la parole du Seigneur. Il est écrit que le Christ, dans Luc 24, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. L'Église est née. Elle est victorieuse, joyeuse, elle grandit rapidement et c'est Christ qui l'a bâti comme il a promis, car le salut est son œuvre souveraine. L'Église est donc un corps dont chaque membre est baptisé par l'Esprit. Le baptême de l'Esprit nous place dans le corps de Christ, juif, païen, femme, il forme un seul corps. C'est là l'identité de l'Église. Toutes les barrières, tous les préjugés sont abolis. Culture, nation, peuple, sexe, statut social, tous sont un en Jésus-Christ. Ce mystère de l'Église, corps de Christ, caché jusqu'à la Pentecôte et révélé en Actes 10, à Pierre et plus tard à Paul. Voici ce que dit Paul aux Éphésiens, chapitre 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. La naissance de l'Église est aussi la naissance de la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples, à tous ses disciples, hier comme aujourd'hui, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour cette mission de partager l'Évangile. Et on ne peut pas l'accomplir sans lui. Alors on a vu que la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit, l'accomplissement des promesses de Dieu, la naissance de l'Église, et elle célèbre enfin la plénitude de l'Esprit. Dieu a aussi donné le Saint-Esprit promis comme gage, c'est-à-dire comme assurance de l'héritage futur du croyant dans la gloire. Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en Christ et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ainsi, l'Église est née en tant qu'accomplissement prophétique des prémices, des premiers fruits de l'Église, tout comme Jésus est ressuscité en tant qu'accomplissement des prémices de la résurrection, comme assurance de notre résurrection future. Le jour de la Pentecôte, par la puissance de l'Esprit en eux, les disciples se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas et qui sont comprises par les Juifs et prosélytes de la dispersion présents avec eux. La tâche de ceux qui forment l'Église de Christ dans l'ère nouvelle commence ce jour-là. Elle sera de renverser le cours de l'histoire inaugurée à Babel et de proclamer aux hommes de toute langue la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption accomplie. À Babel, Dieu est descendu et a confondu les mauvais projets, le mauvais projet des hommes et leur défiance envers lui. Il a confondu leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. À Pentecôte, l'Esprit de Dieu redescend pour que malgré la diversité des langues, les hommes se comprennent de nouveau, entendent la proclamation de l'Évangile, soient sauvés et unis dans la fraternité de l'Église naissante. La conséquence immédiate de la plénitude de l'Esprit pour les disciples, c'est qu'ils commencent à accomplir des choses que d'ordinaire, ils ne pouvaient pas accomplir. Par son Esprit, Dieu est dans sa souveraineté, peut habiliter des personnes ordinaires à faire et dire des choses qui dépassent leur capacité naturelle, dans le seul but de lui rendre témoignage. Il le fait aujourd'hui comme il a fait hier avec ses disciples et il le fera encore. Cette manifestation particulière de la présence et de la puissance de l'Esprit, cette capacité des disciples à parler des langues qu'ils ne connaissent pas et qui sont comprises par ceux qui les entendent, témoigne qu'ils sont à ce moment-là remplis du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, cela peut être une plénitude ponctuelle, soudaine, renouvelable, un courage, une assurance spirituelle particulière que le Saint-Esprit donne aux croyants pour témoigner de l'Évangile. C'est l'expérience de Pierre, Étienne et d'autres croyants dans Actes où ils proclament la parole avec assurance. Mais être rempli de l'Esprit, c'est surtout une œuvre de transformation intérieure qu'opère l'Esprit dans tous les croyants et elle débute à la Pentecôte. Nous sommes remplis de l'Esprit lorsque nous nous soumettons pleinement à la souveraineté de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Être rempli de l'Esprit, c'est une communion avec Dieu, une dépendance de Dieu, centrée sur Christ, obéissante à sa parole, une vie qui fait fructifier les dons spirituels et manifeste le fruit de l'Esprit dans le caractère et la vie du croyant. Et vous connaissez ce fruit de l'Esprit ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je répète, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Être rempli de l'Esprit est un commandement de la parole. Il est dit en Éphésiens chapitre 5, « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Être rempli de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants, frères et sœurs. Le point essentiel ici est notre obéissance et notre soumission à la personne et à l'action du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous transforme intérieurement en nous donnant la volonté et la force de vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous unit de sorte que nous formons ensemble le corps de Christ. La soumission vis-à-vis des autres découle de notre soumission à Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il s'agit d'un déplacement de notre centre d'intérêt. Je ne suis plus au centre, c'est Dieu par son Esprit. Donc il s'agit d'un déplacement de notre centre d'intérêt et d'un déplacement de la source de nos capacités. Je ne compte plus sur moi-même, mais sur l'action du Saint-Esprit en moi. Babel, c'est l'orgueil, l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La Pentecôte, c'est l'humilité et la dépendance de Dieu. C'est une vie transformée pour la gloire de Dieu. Alors, ce matin, soyons encouragés à nous soumettre pleinement à l'œuvre de son Esprit en nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour le don merveilleux de ton Esprit à la Pentecôte et pour son œuvre de transformation dans chacune de nos vies et dans ton Église. Pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton royaume, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.